Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine, des entretiens avec des femmes et des hommes, médecins et praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Professeur René Friedman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien. Professeur Friedman, une émission pour parler de votre parcours de médecin, des jalons que nous allons poser, bien évidemment sur lesquels on va revenir plus longuement au cours de ce moment que je vous propose de partager avec nos auditeurs, hein, de Bamako à Kinshasa, en passant par Montréal et Beyrouth. Professeur Friedman, on vous décrit communément, hein, quand on recherche sur votre nom, sur les moteurs de recherche Internet, comme celui qui a donné la vie au premier bébé éprouvette français. Ce bébé, c'est une petite fille, c'est devenu une jeune femme, c'est devenu une mère. Comment va Amandine aujourd'hui?
Elle va très bien, c'est effectivement une maman, une épouse et elle a deux enfants. Et voilà, les choses se passent, on ne peut mieux.
Alors, l'essentiel de votre carrière a eu pour cadre, professeur Friedman, l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, dont vous avez été le chef de service. Aujourd'hui, vous êtes consultant auprès de l'hôpital Foch de Suresnes, toujours en région parisienne. Et le premier donc de ces jalons professionnels, avant même d'aborder vos origines, votre enfance, surtout ce qui vous a mené vers la médecine, puisque ça aussi, ça nous intéresse. Et donc, cette fameuse date, 24 février 1982, Clamart, cette naissance d'Amandine, février 1982, c'était la voix, la plume de Colette Berthoux, créatrice de Priorité Santé, qui annonce aux auditeurs de RFI cette toute première naissance d'un bébé, de cette petite fille issue d'une FIV, fécondation in vitro en France.
La naissance d'Amandine a beaucoup excité la presse française depuis hier. Il est vrai que ce bébé, conçu dans un tube de verre à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, près de Paris, représente un exploit pour les médecins qui ont travaillé à sa naissance. Tout a commencé au mois de mai 1981. La mère d'Amandine a reçu en injection un traitement hormonal pour stimuler la fabrication des ovules. 36 heures après, l'œuf mûr à point, l'ovule, a été prélevé. L'œuf a été alors placé dans l'éprouvette en compagnie de spermatozoïdes prélevés chez le futur père. 3 jours plus tard, l'œuf féminin est fécondé. On le transplante dans l'utérus de la mère. Donc, cette fécondation dans un tube de verre, il ne faut pas se leurrer. Elle représente bien un exploit pour le corps médical, c'est vrai, et aussi un espoir pour les cas désespérés de stérilité. Mais, et là, il faut vraiment insister, c'est encore une expérience.
Colette Berthoux sur RFI en 1982. Aujourd'hui, cette fécondation in vitro, du moins en France, ce n'est plus simplement, professeur Friedman, une expérience.
Non, bien sûr, puisqu'il y a à peu près 80 000 tentatives par an. Maintenant, voilà, c'est rentré dans les mœurs, c'est dans la réalité. C'est quelque chose qui est diffusé dans le monde entier.
Mais pas particulièrement en Afrique subsaharienne, on nous écoute beaucoup là-bas, c'est pas très accessible. Quand on fait des émissions justement sur l'infertilité, on sent cette attente des femmes, des hommes, ces parents qui voudraient le devenir, qui le sont dans leur âme mais qui ne le sont pas dans leur corps. Il y a une souffrance pour celles et ceux qui ne peuvent pas justement accéder à cette maternité.
Absolument, parce qu'il y a un problème, si vous voulez, sur le plan technique, c'est réalisable. Sur le plan politique, ça peut être combattu différemment. Et sur le plan économique, ce n'est pas rien. Donc de là à ce qu'il y ait un investissement public, comme ça a été le cas en France, où 4 tentatives sont remboursées par la Sécurité sociale, il y a un chemin à faire que la plupart des pays du monde, d'ailleurs, n'ont pas réalisé. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même une méthode, si vous voulez, qui a été à l'origine une véritable transgression. Parce que quand même, de penser qu'on va faire rencontrer à l'extérieur du corps des spermatozoïdes et un ovule, et voir sous nos yeux un embryon humain qui était invisible jusqu'à là, qui était intouchable, et aujourd'hui il est devenu même manipulable. Donc c'est une transgression qui a mis du temps un peu à s'implanter, qui aujourd'hui on le voit et on le verra sans doute, peut avoir aussi des, on va dire, des dérives. En tout cas, il y a eu des extensions, puisqu'on est parti souvent d'une stérilité féminine qui était liée à des trompes qui étaient absentes ou qui étaient bouchées, à une stérilité masculine, à une stérilité, pas une stérilité, mais une infertilité d'origine génétique. Et aujourd'hui, donc, effectivement, il y a une extension au point même, comme vous le savez, il y a des discussions dans certains pays sur des indications sociétales, c'est-à-dire simplement des femmes seules ou des femmes en couple homosexuel. Donc, vous voyez, il y a une évolution au cours de ces 40 années assez étonnante et qui mérite réflexion éthique en même temps que réflexion technique.
Alors, 24 février 82, on revient à cette fameuse date. Professeur Friedman, certains journaux vous désignent comme le père d'Amandine, et ce depuis sa naissance. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression de père d'Amandine?
Eh ben, écoutez, j'essaye depuis 40 ans de contrecarrer cette notion, parce qu'Amandine a un père, qui est d'ailleurs charmant, qu'on se connaît bien. Et ensuite, je ne suis pas le seul acteur scientifique de cette histoire, puisque, bien sûr, c'est un travail d'équipe. En particulier, il y avait à l'époque Jacques Tessa, ensuite il y a eu d'autres collaborateurs, et puis il y a eu tout un environnement qui va de l'infirmière à l'échographiste, etc., pour que ceci se réalise.
Alors justement, dans Lettre à une mère, très joli livre, joli à la fois, bouleversant, que vous dédiez à celle qu'au cours de toute votre vie de médecin, vous avez accompagnée, vous employez un autre terme qui a davantage retenu mon attention, c'est celui d'homme cigogne.
Oui, celui qui peut apporter le bébé aux parents. Hein, c'est la cigogne qui amène dans cette image alsacienne le bébé aux parents. Donc voilà. Et puis aussi parce que on a les cigognes qui se postent sur les toits, vous savez, et qui regardent la vie, on peut dire. Et moi, je le dis d'ailleurs dans le livre, je me suis souvent considéré comme un homme de passage, c'est-à-dire où je vois, si vous voulez, le désir qui s'exprime du couple, la réalisation, puis ensuite l'enfant qui naît dans les meilleurs des cas, ce qui n'est pas toujours, bien sûr, et ensuite c'est une histoire qui ne me concerne plus.
Facteur de la vie, vous distribuez l'existence et vous écrivez « Je me suis posté au début de la vie, c'est là que l'on a la plus belle vue ». C'est quoi ce début de la vie justement que vous décrivez? Il commence dans le laboratoire ou il commence quand vous rencontrez ces femmes et ces hommes?
On fait plusieurs débuts de la relation avec un enfant, le désir d'enfant soi-même, le début de l'être qui va tenir ou pas tenir, puisqu'il y a, comme vous le savez, 15 à 20% de fausses couches. Enfin, il y a beaucoup d'aléas quand même dans tout ça. Puis ensuite, quel enfant va arriver au monde et puis comment il va s'élever avec les parents, sans les parents. Enfin bon, il y a tellement de questions qui sont posées que c'est un peu sans cesse. Mais c'est, il n'en reste pas moins que l'émotion, elle est souvent là dès que le désir s'exprime.
Alors, vous êtes un médecin célèbre, hein, professeur René Friedman, on ne va pas faire semblant. Le premier qui, pour beaucoup de choses, un précurseur. Qu'est-ce que ça change par rapport à ses confrères et qu'est-ce que ça change par rapport à ses patients?
Par rapport aux confrères au niveau international, hein, il y a une, comment dire, en même temps, on va dire, allez, sur le côté positif, c'est une émulation, et sur le côté plus négatif, c'est une concurrence. Mais en même temps, quand quelque chose est découvert par une autre équipe, et Dieu sait s'il y en a eu, parce que beaucoup de choses que l'on a appliquées, que ce soit la congélation embryonnaire, que ce soit le traitement de la stérilité masculine, que ce soit la cryopréservation des ovules, tout ça a été fait par d'autres équipes. C'est une vraie mondialisation, ça circule très très vite. Et puis, depuis le temps, on se connaît les uns les autres. Enfin, après, il y a plein de nouveaux qui arrivent, heureusement. Mais c'est en même temps très lié. Parmi les premiers, il y a une célèbre photo où on se retrouve à peu près 25 de pionniers, on va dire, avec le grand pionnier. Parce que celui qui a vraiment initié, c'est Bob Edwards, qui a eu le prix Nobel 20 ans plus tard. Mais c'est lui qui a vraiment franchi les premiers pas. Mais là, il réunit les précurseurs, on va dire, les pionniers dans le monde. Et cette photo est assez superbe. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont déjà plus là. Mais pour ceux qui sont là, je peux vous dire que ça crée des liens. C'est des liens éternels, quoi.
On va revenir sur ces différentes avancées, sur ces différents débats. Mais j'ai une question de départ. Le choix de la gynécologie obstétrique. Pourquoi devenir médecin des femmes? Et pourquoi se spécialiser, justement, dans la procréation?
En fait, je voulais pas du tout faire ça. Moi, j'étais à l'époque d'abord assez politisé. Et puis, j'ai tout de suite adhéré à Médecins Sans Frontières. Donc, je voulais plutôt faire de la chirurgie, de la traumatologie, aller sur le terrain. Et puis, j'aime bien l'action. J'aime bien jouer avec mes mains et être efficace tout de suite. Mais l'histoire en a décidé autrement. Parce que quand on est interne, il faut choisir des services. Et j'avais pas les services que je voulais en orthopédie, fort heureusement. Et j'ai donc été dans un service de gynécologie opératoire. Et là, je suis tombé dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de péridurale, il n'y avait pas d'échographie. Les enfants, quand ils étaient très prématurés, je raconte souvent cette histoire, la première césarienne que je fais avec mon patron à l'époque, il dit, il sort deux petits jumeaux, puis il dit, appelez-le vite. Alors, moi, dans mon réflexion, c'était le grand Manitou pédiatre qui venait pour réanimer, mais non, pas du tout, c'était pour donner l'extrême onction. C'était le curé qui rentrait avec sa soutane, d'ailleurs. Donc, voilà, il y avait une situation, et donc je me suis dit, alors, puis à ce moment-là, il y avait dans la société le mouvement des femmes, qui revendiquait le droit à l'avortement. Et moi, en tant que jeune médecin, j'avais vu des séquelles épouvantables, j'avais vu des morts de jeunes filles. Donc je me suis engagé, si vous voulez, ça a toujours été un lien entre les phénomènes de société et comment la médecine pouvait s'inscrire dans ce changement de la société.
Alors médecin, professeur, parcours ponctué, déterminé par des rencontres, parmi ces figures qui ont marqué votre engagement dans la santé, dans le soin, il y a un nom, un homme que vous avez tenu à saluer, cette figure de la médecine, c'est le professeur Jean Bernard. Quel lien vous unissez, professeur René Friedman, à ce spécialiste de la leucémie, hein, hématologue, cancérologue?
Le lien qui m'a uni à lui, c'est qu'il était le président du comité national d'éthique, qui avait été créé après la naissance d'Amandine par le président Mitterrand à l'époque, en 83. Et alors d'abord, en 82, on a été décorés, Jacques Testard et moi, de l'Ordre du Mérite, et puis Émile Papiernik, de la Légion d'honneur. Et ensuite, j'ai rencontré Jean Bernard au Comité national d'éthique, qu'il présidait, et là, je dois dire que j'étais époustouflé par l'humanisme de cet homme, la clairvoyance, l'intelligence, enfin, tout, quoi. Et en plus, quand après, j'ai lu un peu son passé, y compris son attitude pendant la guerre, et pendant la résistance, enfin, voilà, on est à genoux devant des personnalités de cette grandeur.
Il y a des gens qui vous laissent sans voix. Je vous propose d'écouter un document d'archives, retour 30 ans en arrière, justement, 1988. Le professeur Jean Bernard est invité sur la deuxième chaîne de télévision. À l'époque, on dit Antenne 2. Jacques Chancel, ça s'appelle Figure. Et si la médecine lui doit beaucoup à Jean Bernard, eh bien, il explique que tout n'était pas joué d'avance. Est-ce que vous savez qu'il a hésité avec une autre ligne, professeur Jean Bernard?
Non, je n'ai pas en tête.
Eh bien, on va entendre ça tout de suite. Il a hésité à devenir romancier.
Je me rappelle encore quand j'avais 15-16 ans et que j'hésitais sur le choix de mon avenir. J'ai hésité entre les deux professions, écrivain ou médecin. J'avais une famille, on était surtout ingénieurs, tout le monde me poussait à faire des mathématiques. Et il est arrivé quelque chose d'extrêmement dangereux, j'étais un élève très moyen en mathématiques, et il est arrivé quelque chose d'extrêmement dangereux quand j'étais en mathématiques élémentaires, j'ai été premier à la première composition de mathématiques, parce que le problème était si difficile que personne n'avait su le faire et qu'on jugeait sur la question de cours. Alors tout le monde a essayé de me pousser vers les grandes écoles. J'ai réussi à tenir bon, et puis je me suis trouvé avec l'hésitation entre lettres et médecine, et avec un argument, je me rappelle très bien, qui a joué, qui était un signe, on était extrêmement vaniteux à 15-16 ans, n'est-ce pas, qui était: un médecin moyen, ça rend service, un écrivain moyen, c'est déplorable. Mais ça, et c'est une des raisons qui m'a poussé. Bon, je suis quand même revenu pas mal à la littérature de temps en temps.
Le timbre grave du professeur Jean Bernard avec Jacques Chancel en 1988, qui a donc choisi entre ces deux vocations, sciences ou littérature, professeur René Friedman. Est-ce que pour votre propre choix professionnel, vous employez vous aussi ce terme de vocation qui peut être galvaudé, mais est-ce que d'après vous, la médecine, c'était votre vocation?
La médecine s'imposait, je dirais, s'est imposée très jeune. Ma mère voulait que je sois médecin, et moi, j'avais rien contre. Je voyais ça plutôt. Encore que l'image du médecin en tant qu'adolescent, c'était le médecin de famille. Mm-hmm. J'avais pas du tout de lien dans l'université et dans les hôpitaux. Hein. Donc, c'était, oui, faire du bien. Ceci étant, puisque vous avez passé une interview de Jean Bernard, je crois qu'il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait été excellent.
Vous pensez que ça aurait pas été un romancier médiocre?
D'ailleurs, non, mais ses livres, il a beaucoup publié de livres qui se lisent extrêmement facilement et qui rapportent ses aventures médicales et de société et politique pendant la guerre qui sont passionnantes.
Alors on va continuer d'évoquer les temps forts qui ont marqué ces années, notamment l'hôpital Antoine Béclair, 36 ans, c'est là que vous rencontrez, tout à l'heure vous avez cité son nom, le professeur Émile Papiernik. Alors pour la jeune génération qui nous écoute, dont je ne fais pas partie, professeur René Friedman, comment décrire ce que le professeur Papiernik a changé dans la vie des Françaises et des femmes en général à la fin des années 60?
Il avait la considération de la patiente et du couple, et il les écoutait et il voulait répondre en totalité, c'est-à-dire pas un acte technique, mais un acte technique parfois, oui, novateur, il n'avait pas peur de l'innovation, et aussi, si vous voulez, englober dans une compréhension de la personne. Voilà. D'ailleurs, il avait dans son équipe de recherche des psys, qui étaient des psychanalystes et des psychologues très talentueuses. Et puis, il avait en même temps un laboratoire de fécondation in vitro qui nous a permis d'avancer. Vous voyez, c'était un peu de marcher sur les deux jambes, et j'ai gardé de son enseignement et de sa présence, cette double approche, si vous voulez.
Avec une dimension sociale aussi, parce qu'il est notamment à l'origine du congé thérapeutique. Quand une maman, avant le congé légal de maternité, ne va pas très bien, elle peut s'arrêter. C'est aussi grâce à ce genre de personnalité qu'on a pu avoir cette avancée.
Voilà, c'est-à-dire que lui était très préoccupé par la prématurité, les enfants qui naissent trop prématurés et qui gardent des séquelles. Et donc, toute sa vie, il a lutté contre la prématurité, mais par des éléments, on va dire, médicaux, des éléments de santé publique. Et il a fait des enquêtes en Seine-Saint-Denis, il a fait des enquêtes aux Antilles, dans les endroits où il n'y avait pas la médicalisation la meilleure, toujours pour essayer de démontrer qu'il fallait qu'on agisse à plusieurs niveaux pour combattre ce fléau.
Alors des mentors, hein, des rencontres déterminantes dans cette transmission du savoir, des collaborations et aussi des amitiés.
RFI.
Bonjour professeur Jean-Marc Ayoubi.
Bonjour madame.
Vous êtes le chef du service de gynécologie de l'hôpital Foch de Suresnes, établissement qui accueille désormais un centre de procréation médicalement assisté, un site qui regroupe l'ensemble des étapes du parcours de PMA, de la première consultation pour infertilité jusqu'à la grossesse. Alors cette première question dans ce portrait, comment, dans quelles circonstances avez-vous rencontré le professeur René Friedman ?
Dans quelles circonstances et dans mon parcours hospital ou universitaire, donc j'ai opté pour une carrière universitaire dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique, mais surtout aussi de la médecine de la reproduction. J'ai voulu faire une année recherche dans le service du professeur Friedman. Et au lieu de passer une année, j'ai passé 3 années. Donc la mayonnaise avait bien pris au niveau de la recherche et au niveau des liens qui ont commencé à ce moment-là et qui ne sont jamais ni interrompu, ni rompu.
Alors, vous avez travaillé chez René Friedman, si l'on peut dire, à Clamart, et puis autour du professeur Friedman, de vous rejoindre, de rejoindre votre service, toujours en région parisienne, à Suresnes, professeur Jean-Marc Ayoubi, dans cet hôpital Foch. Comment ça s'est passé, ce transfert ?
Alors, ce transfert, enfin, écoutez, on n'a pas assez de temps pour tout décrire, mais très très simplement, moi j'ai été nommé professeur de l'université, chef des services au CHU de Toulouse. Et puis après, j'ai été contacté pour prendre la chefferie de l'hôpital Foch, chose que j'ai acceptée pour déménager en 2006. On a monté un centre de PMA entre l'hôpital Foch et l'hôpital de Neuilly-Courbevoie, qui avait bien fonctionné. Et 2 ou 3 ans après mon arrivée à l'hôpital Foch, professeur Friedman me dit « bientôt partir à la retraite, il n'y a que toi qui pourrais prendre ma place à l'hôpital Béclair ». Bon, je dis, il n'y a que René Friedman qui peut succéder à René Friedman. Je peux pas. Je pourrais pas. Tu as énormément construit, tu as énormément fait avancer. En permanence, on va me comparer à toi, donc je pourrais pas. Bon, ben, il était un peu déçu, mais pas beaucoup. On a gardé aussi les liens. Et puis à un moment donné, un an après son départ à la retraite, il me dit, bon, ben, t'as pas voulu venir. Est-ce que on peut trouver une collaboration dans ton service ? Aucun souci, je vais m'en occuper. Et on a créé au sein du service de l'hôpital Foch un poste de consultant universitaire que le professeur Friedman occupe bientôt depuis 6 ans ou 7 ans.
Justement, excusez-moi, professeur Jean-Marc Ayoubi, quand on recrute un homme avec ce parcours, certains même diraient ce palmarès, est-ce qu'on ne craint pas ce poids de la notoriété ?
Je n'avais aucune crainte. Connaissant l'homme, et connaissant bien les liens qui étaient entre nous deux, donc je n'avais pas le moindre souci. Et puis, je ne pouvais pas ne pas répondre à une occasion de continuer à travailler avec René Friedman. Et de toute façon, c'est une richesse, ne serait-ce que de discuter avec lui, de concerter, d'avoir le fruit de 40 ans de générosité, de recherche, d'enseignement, de soins. On ne se pose pas des questions que j'appellerais accessoires.
Alors, richesse, expérience, générosité, cette amitié de longue date, quand on connaît bien quelqu'un, on peut en toute amitié aussi lui dire quand il exagère, professeur Jean-Marc Ayoubi, on a bien perçu l'enthousiasme du professeur Friedman. Quel est le côté obscur de cette force de vie ?
Friedman, il a tellement de lumière qu'il cache le côté obscur, s'il y en a. quelqu'un qui continue à transmettre, à donner, à s'enthousiasmer pour tel ou tel projet, c'est formidable. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'atteindre son âge et avoir toujours cet enthousiasme dans l'accomplissement de la profession et de tous les jours. C'est pas l'homme parfait, mais j'ai connu rarement de grands patrons de notre discipline de gynécologie obstétrique en France qui a autant donné aux patientes et à ses élèves que René Friedman.
L'hommage d'un professionnel et d'un ami. Merci beaucoup, professeur Jean-Marc Ayoubi, d'avoir répondu à nos questions. Et excellente journée à vous.
Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, madame.
Au revoir. Et on poursuit cet échange. On va reprendre dans quelques minutes cet échange, professeur Friedman. Mais on va marquer, si vous le voulez bien, une petite pause en musique avec un titre que vous avez choisi. Nothing Compares to You. On connaît la version de Sinéad O'Connor. C'est l'original en 87, celle de Prince. Et vous avez choisi d'entendre cette chanson interprétée par le jazzman Jimmy Scott.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares. Nothing compares to you.
Jimmy Scott sur RFI, un titre que vous avez choisi, professeur René Friedman. Pourquoi ce choix, cette voix ?
Parce que je trouve que c'est une mélodie et puis en même temps d'une tristesse humaine, enfin qui perle vraiment. Et puis cette voix est assez extraordinaire parce que c'est Jimmy Scott. Quand on l'écoute la première fois, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Je veux dire.
Et j'ai vu qu'il se trompait même. Il y avait eu des pochettes de disques où ils avaient des illustrations féminines. Voilà.
Non, parce que il a une voix qui circule dans la totalité quoi du genre humain. Donc je trouve que voilà, ou bien on est, vous savez, la musique. Ou bien on est sensible, ou bien on ne l'est pas.
On n'a pas besoin forcément de s'expliquer. Poursuit cet échange avec vous dans le cadre de cette émission Portrait de priorité santé. On a parlé des confrères qui vous ont inspiré, au passé comme au présent. La fidélité à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, puis les changements. On va revenir sur d'autres dates importantes de votre parcours. Et ce document d'archives, encore un, on va dire, 1999, le prix Nobel de la paix pour Médecins sans frontières.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 1999 to Doctors Without Borders, Médecins sans frontières.
Alors, remise du prix Nobel à MSF Oslo, 10 décembre 1999. Professeur Friedman, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, vous avez été au départ de cette aventure humanitaire. MSF, forcément, nos auditeurs connaissent bien à travers le monde. Quel souvenir en gardez-vous ?
Le souvenir de cette première mission au Nicaragua, qui était en décembre 1972, puisque je connaissais bien en médecine et par amitié Bernard Kouchner, et que nous, avec d'autres, donc à l'initiative de cette première mission officielle de Médecins sans frontières, 20 000 morts, une ville détruite, et tout de suite les problèmes de la médecine humanitaire et de ce qui peut être détourné de l'aide humanitaire, puisqu'on était avec un dictateur qui était Somoza à l'époque. Enfin, c'était déjà compliqué. Mais voilà, c'était la première mission, je dirais, qui va ensuite
vous conduire vers d'autres régions, vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique,
moi je vais aussi faire personnellement, je dirais, autour de Septembre Noir en Jordanie, et puis au Tchad, et puis ensuite d'un peu plus loin, parce que je vais me consacrer à la médecine, et ça va me prendre beaucoup de temps, je peux pas tout faire.
Alors justement, est-ce que votre parcours de vie vous a conduit à établir des relations particulières avec certaines régions de la planète?
J'ai envie de dire que j'ai une grande chance. J'ai compté il n'y a pas longtemps, je crois que j'ai eu 432 stagiaires étrangers au cours de toutes ces années.
C'est le monde qui est venu à vous.
Voilà. Et du coup, si vous voulez, il se trouve qu'il n'y a quasiment pas un pays dans le monde où je n'ai pas un lien. Et donc, voilà, a priori, c'est plutôt une garantie sur l'avenir des relations internationales, sur une thématique qui est passionnante partout et qui prend toutes les énergies et qui crée des liens très forts.
Alors l'obstétrique vous a appris, hein, vous l'expliquez dans un autre livre, Le secret des mères, spécialité qui, d'après vos propres termes, c'est une école de tolérance. La grossesse, la naissance, façonnée par les origines, la culture, avec des fois des dimensions irrationnelles et assez poétiques, que l'accoucheur apprend à connaître au fil des années. C'est ce qu'on comprend en vous lisant. On ne naît pas de la même manière à Bamako, à Sydney, à New York et à Johannesburg.
L'accueil n'est pas le même, les valeurs ne sont pas les mêmes, les rites de passage ne sont pas les mêmes, le vécu n'est pas le même, les risques ne sont pas les mêmes. Tout ça pour dire que dans ces côtés dramatiques, il y a les côtés heureux, bien sûr, de l'accueil de l'enfant, et que là, c'est un bonheur d'essayer de comprendre les traditions. D'ailleurs, au point que j'avais avec un ethnologue, Alain Epelboin, fait une exposition.
Qui est aussi un habitué de l'émission.
Voilà, pas très bien. Et donc on a fait ensemble une exposition
à Paris
au musée de l'homme sur justement la naissance, en essayant de montrer justement les différents types d'accueil selon les traditions et les points forts de chaque ethnie.
Alors on va continuer à poursuivre ces années, les années 70-71, on disait, création de MSF. Cette même année, l'un des grands sujets d'actualité en France est lié aux droits des femmes, à la procréation, au travers de la mobilisation en faveur de la liberté d'avorter, signature du manifeste des 343 femmes qui disent avoir avorté, donc en se mettant en infraction avec la loi. 2 ans plus tard, vous êtes parmi les signataires du manifeste des 331. Là, ce sont 331 médecins qui revendiquent le fait d'avoir pratiqué des avortements, eux aussi en contrevenant à la loi. Pourquoi avoir fait cet aveu public, professeur Friedman, même si c'est il y a très longtemps, c'est quand même quelque chose de fort?
Mais pour faire changer les choses, hein, si vous voulez, parce que nous étions en train de voir un certain nombre de jeunes femmes avoir des infections. Il faut se remettre aussi dans le circuit, c'est-à-dire que on est post-68, il y a une liberté sexuelle qui a été gagnée, mais une protection qui ne l'est pas. Une protection, j'entends, des maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas encore le sida. Mais vous savez, quand on était de garde, comme interne, chaque garde, il y avait une femme qui arrivait dans un état avec une salpingite aiguë, et qui ensuite va laisser des séquelles, justement, parce qu'elle ne pourra pas concevoir le quelques années plus tard, lorsqu'elle le souhaitera. Voilà, après on peut penser que c'est compliqué, qu'il faut pas le faire. Il y a tout un tas de problèmes éthiques qui viennent là, mais en tous les cas, à partir du moment où la femme décide de le faire, il faut qu'elle le fasse dans de bonnes conditions et que ça ne soit pas clandestin, que ça ne soit pas un circuit d'un marché noir redoutable, mais que ça soit médicalisé pour que ça se passe au mieux et avec un accompagnement, y compris psychologique. Voilà, c'était ça notre position.
Est-ce que ça veut dire pour autant que vous estimez, professeur René Friedman, qu'il faut parfois anticiper certaines lois?
Bien sûr. D'ailleurs, j'ai envie de dire que j'ai pas arrêté, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment donné...
Quand on est chercheur, on est un petit peu en avance.
Oui, et puis on perçoit, si vous voulez, un certain nombre de choses. C'est que, par exemple, la conservation des ovules était quelque chose qui n'était pas autorisé en France. Alors, en 2011, on a fait la première naissance d'enfants nés après une congélation d'ovules. Alors que nous, on voulait une autre technique qui est une congélation rapide. On rentre un peu dans les détails, qui a été découvert par les Japonais en 2005. Et en France, on n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que dès qu'on changeait quelque chose, ces innovations étaient taxées de recherche sur l'embryon, ce qui était strictement interdit. Donc quand vous voulez innover, automatiquement vous bousculez. Tout l'art de la chose, c'est d'être convaincu par des préalables, souvent chez l'animal ou théorique, et puis ensuite de bien mesurer, si vous voulez, si le jeu en vaut la chandelle, et d'être convaincu. Par exemple, puisque j'ai eu le plaisir d'entendre Jean-Marc Ayoubi tout à l'heure au téléphone. Ensemble, nous prenons le développement de la greffe utérine. Vous voyez, alors la greffe de l'utérus, il y a quelques années, personne ne connaissait cette histoire.
Il y a eu une première très très récemment, avec pour la première fois une greffe utérine, c'était au Brésil, à partir d'une donneuse décédée. Jusque-là, c'était des donneuses vivantes. Tout ça aussi, ça pose des questions éthiques, surtout bien quand entendu. On est sur l'utérus. Je dis pas que ça met mal à l'aise, mais ça pousse quand même à s'interroger.
Mais vous savez, les premières greffes cardiaques, on s'en est posé des questions. On s'en pose toujours, d'ailleurs.
Hein. Toujours.
Parce qu'il y a toute une régulation. Tout ce qui est greffe d'organes, c'est, je veux dire, éviter le marché noir, éviter la commercialisation. Donc, c'est toujours difficile. Et la greffe d'utérus ne manquera pas à l'affaire. Néanmoins, faut-il encore, je crois, que quand on prend justement les précautions des greffes d'organes ou des prélèvements sur personnes décédées, je dirais, pourquoi ne pas le faire ?
Alors, on va continuer dans le temps. 71, on a tourné la page. La date de 82 avec la naissance d'Amandine. Et 29 ans plus tard, c'est là encore votre équipe qui signe une première, la naissance à Clamart d'un petit garçon. Certains le désignent comme un bébé médicament, un terme que vous rejetez. Vous nous direz peut-être tout à l'heure pourquoi. On parle aussi alors d'un bébé du double espoir.
C'est la photo du bonheur, ça représente tout pour nous. C'est le changement de notre vie.
Ce bébé va peut-être sauver la vie de sa grande sœur, atteinte d'une maladie génétique grave, la bêta-thalassémie. Le sang prélevé à sa naissance dans son cordon ombilical permettra dans quelques mois une greffe sur la petite fille. Il s'appelle Umut, il est né le 26 janvier dernier. Les médecins l'ont choisi alors qu'il n'était qu'un embryon, parce qu'il était compatible avec sa grande sœur.
Vous vous faites piquer, vous avez mal. Mais nos enfants, ils ont plus mal tellement qu'ils sont habitués à être piqués. Et c'est pour ça qu'il est très très précieux pour nous, Umut.
L'histoire de ce bébé commence ici, à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, dans ce laboratoire où il a été conçu il y a 9 mois par fécondation in vitro. Les spermatozoïdes de son père ont été introduits dans les ovules de sa mère. 3 jours plus tard, on a obtenu des embryons. Il a fallu ensuite prélever sur chacun 2 cellules.
C'est un geste qui est quand même très stressant parce que vous voyez bien que si on détruit un embryon et que c'est pile celui dont on avait besoin, c'est terrible, quoi.
Les 2 embryons sont réimplantés dans l'utérus de la mère car le couple veut absolument un enfant, qu'il soit compatible ou pas. Et coup de chance, c'est l'embryon compatible qui a pris. Pour le grand frère Mehmet, 5 ans, malade lui aussi, il faudra attendre une 2e tentative de bébé médicament de ses parents. La science tentera à nouveau de lutter contre la fatalité.
Reportage dans le journal de France 2 du 26 janvier 2011, professeur René Friedman, enfant du double espoir et non bébé médicament, pourquoi ?
Parce que ce serait le chosifier que de le regarder que sous cet angle-là. D'ailleurs, les parents s'expriment très bien. Ils disent que de toute façon, même s'il n'est pas compatible, puisqu'il faut qu'il soit compatible pour que les cellules sanguines puissent être changées. Et donc, dans cette démarche-là, c'est un acte d'amour et pas un acte de marchandise.
Il y avait un désir d'enfant, quoi qu'il arrive.
Et la preuve, c'est que d'ailleurs, et ensuite, ils vont d'ailleurs être encore... Elle va être enceinte de jumeaux qui ne sont pas compatibles pour le grand frère. Dans un premier temps, elle va les garder, hein, je veux dire, elle va vouloir qu'on les transfère. Donc c'est complexe, mais on peut comprendre aussi cette mère, ce père, qui voit leurs enfants avoir une transfusion sanguine une fois par semaine, avec toutes les séquelles que cela entraîne. Et donc là, il y avait un moyen qui aujourd'hui est peut-être dépassé, parce qu'il y a d'autres façons de traiter ce genre de maladie, mais qui était déjà à l'ordre du jour pour essayer de sauver les enfants existants, malades, dont la seule solution, c'était le remplacement de leur sang par un sang compatible.
Alors, enfant du double espoir, donc qui sauve au sens propre, tout en comblant, on l'a compris, ses parents à sa naissance. Ça me renvoie un petit peu, professeur Friedman, dans une certaine mesure, à ce bébé que vous avez été. Parce que quand on lit votre histoire, je vous cite, hein, je suis née en 1943, j'ai demandé à mes parents ce que je faisais là, hein, enfant né juif aux confins de la France et de cette guerre. Ils m'ont répondu qu'ils croyaient les femmes enceintes protégées de la déportation. Est-ce que vous êtes finalement un enfant bouclier devenu homme cigogne ?
C'est pas impossible, en tous les cas. De façon inconsciente, c'est vrai que ça, j'avais cette interrogation, je disais, mais quand même, la nuit était noire, quand même, fin 42, début 43.
Votre père a vécu des années cachées par une famille française.
Il était caché par une famille qui était reconnue juste auprès des nations et à qui on doit la vie, je dois la vie, et mes parents aussi, et mon frère qui était avec moi. Et donc, j'étais confronté à pourquoi, dans cette période quand même où il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Et effectivement, la réponse a été celle-là, et j'ai quelques cousins, cousines, ici ou là, de familles qui étaient aussi protégées et qui sont nées cette fameuse fin 43 et début 44, comme quoi il y avait un leurre, c'était de croire que la grossesse se pouvait protéger, ce qui n'a pas été le cas, mais voilà, ça a permis en tous les cas
d'avoir une bonne cuvée,
d'échapper au pire.
Au pire. Enfant du double espoir donc en 2011, et si cette naissance a eu lieu, professeur René Friedman, c'est grâce au diagnostic prénatal,
préimplantatoire.
Et justement, ce diagnostic, aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial pour vous, notamment de changer les choses à ce sujet.
Oui, alors, aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés au fait que 60% des embryons, et près de 80% si la femme est un peu âgée, si elle dépasse 41, ne vont jamais s'implanter. Alors, la question se pose, est-ce que ça vaut le coup de réimplanter, de faire croire, d'avoir une fausse couche, est-ce que ça vaut le coup de congeler, d'attendre pour réimplanter ensuite et avoir un échec, ou est-ce que ne vaudrait pas mieux pouvoir faire ces examens comme on le fait dans pas mal de pays, mais en France pour l'instant c'est interdit, et c'est un des points sur lequel, avec près de 200 médecins et biologistes, nous avons écrit un livre, le manifeste justement des médecins et biologistes de la reproduction, il y a 2 ans à peine, pour que la loi de bioéthique, la nouvelle, évolue et s'adapte aux phénomènes de société, en particulier qu'elle permette d'analyser les embryons en fonction de leur potentiel pour ne pas faire perdre du temps inutilement, faire croire des choses qui ne vont jamais arriver. Donc c'est effectivement une revendication, même si sur le plan technique, tout évolue, tout est complexe, et c'est pas aussi une baguette magique, mais c'est quand même important de pouvoir le faire. Il y a d'autres thématiques qui nous semblent être devoir discuter dans la future loi de bioéthique. Le fait qu'une femme puisse conserver ses ovules lorsqu'elle est âgée de 33 à 35 ans, qu'elle n'a pas de prince charmant, mais que dans 5 ans, elle va peut-être les utiliser, plutôt que d'arriver à 40 ans avec les difficultés de reproduction que l'on connaît, elle va utiliser ses ovules de 35 ans et avoir donc de meilleures chances. Si, c'est pas non plus une baguette magique, mais c'est quand même une possibilité. Donc nous souhaitons effectivement qu'il y ait une adaptation, si vous voulez, de notre loi, qui quand même a la particularité d'être révisée tous les 5 ou 7 ans. On est le seul pays qui fait ça. Et le problème, c'est que comme ça se passe au Parlement, vous avez à ce moment-là une coalition politique qui est parfois très éloignée du sujet, et en particulier de la thématique que j'aborde là, pour faire des coalitions. Et ça revient tous les 5-7 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est en plein prisonnier d'attitudes idéologiques, certes, c'est normal, les gens pensent ceci, pensent cela, mais sur le plan de la réalisation, chaque loi de bioéthique, 94, 2004 et 2011 et la future, c'est à chaque fois des batailles.
Des batailles, des questions éthiques qui sont au cœur de votre parcours, professeur René Friedman. Est-ce qu'il vous est arrivé de changer, de varier? Vous aviez quelque chose en tête, pour vous c'était une certitude, mais avec le temps, avec la science, avec l'évolution, vous avez changé de point de vue?
En particulier dans l'histoire que l'on citait tout à l'heure de l'enfant du double espoir, au début j'étais pas favorable parce que j'avais un peu peur de cette
instrumentalisation
de l'enfant. Et en fait c'est en écoutant les femmes, on a compris le drame qu'elles vivaient, c'est-à-dire d'avoir un enfant qui était sain et de voir mourir leur précédent, c'était pas une bonne solution. Donc oui, là j'ai changé pour prendre cet exemple-là.
Alors, on va effectuer un autre tour en arrière. On va rejoindre l'année 2012. On est un an avant que la France n'adopte le mariage pour tous. Projet porté par la garde des Sceaux de François Hollande, Christiane Taubira, sur RTL. Elle explique pourquoi le débat n'intègre pas, alors, la PMA directement à la question des unions homosexuelles. Explication, oui, mais elle ne ferme pas la porte pour autant.
La PMA est dans le code de la santé publique, relevait d'ailleurs des lois bioéthiques. La PMA est reconnue aux couples hétérosexuels sous 2 conditions. La condition d'une stérilité médicalement constatée et la condition d'un risque de maladie héréditaire grave. Ce sont les conditions dans lesquelles un couple hétérosexuel peut bénéficier d'une procréation médicalement assistée. Donc d'ailleurs, aucun des pays qui ait adopté le mariage homosexuel n'a adopté dans la même loi la procréation médicalement assistée. Il y a d'ailleurs des pays qui ont adopté la PMA sans ouvrir le mariage aux couples homosexuels et d'autres qui ont ouvert le mariage sans adopter la PMA. Alors évidemment, le gouvernement n'est pas en train de dire qu'il est interdit au Parlement ni de déposer un amendement, ni d'ouvrir le débat, ni d'adopter cet amendement. Mmh. Le texte que je suis chargée de porter, ce texte a été soumis au Conseil d'État, mmh, selon la procédure tout à fait normale, et c'est ce texte qui est présenté. La PMA est une revendication parfaitement légitime. Je n'ai aucun souci avec cela.
Christiane Taubira sur RTL, décembre 2012, projet de loi sur l'ouverture de la PMA aux femmes homosexuelles et célibataires. Ce projet repoussé à l'été 2019. Professeur René Friedman, vous vous êtes exprimé sur ce sujet et vous y êtes favorable.
Je suis favorable avec un accompagnement. Il faut juste, comme le font nos collègues belges, par exemple, qui a vu venir toutes les femmes célibataires à peu près, ils refusent de prendre en charge à peu près 25% des demandes qui n'ont pas les critères de stabilité et de développement qu'ils jugent, en tous les cas. Alors vous me direz, oui, ils jugent, mais oui, mais les médecins ne sont pas là que pour appuyer sur un bouton. Ils peuvent aussi avoir une appréciation et une volonté d'accompagner. Donc, c'est pas un refus, au contraire, mais ça peut être, c'est un accompagnement et une mise au clair sur la table des problèmes qui, de temps en temps, sont un peu masqués ou ne veulent pas être mis sous les lumières.
Alors, pour vous, donc, la PMA sous condition, c'est oui. Par contre, la GPA, gestation pour autrui, c'est non. Pourquoi ?
Parce que là, on change, si vous voulez, complètement de registre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une femme qui peut porter un enfant. Les hommes, s'ils souhaitent un enfant, sont obligés d'avoir une femme donneuse, d'un côté, donneuse d'ovocytes, et une femme qui va porter. Donc, on est complètement dans ce que moi j'appelle un risque fort d'aliénation et de commercialisation du corps, surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement. Certains rêvent d'une GPA éthique qui ne laisserait pas de traces ni psychologiques ni financières. Voilà, ce sont à mon avis pour la plupart des gens charmants, mais qui ne voient pas la réalité du marché telle qu'elle se passe avec, je dirais, un achat du corps de la femme. Donc on peut comprendre que certains hommes, quel que soit leur orientation sexuelle, veulent élever des enfants, mais l'adoption est permise, y compris pour des hommes seuls, et on a empêché personne, je crois, d'être père, mais pas au détriment d'une mainmise sur la vie, d'une partie de la vie d'une femme qui est utilisée pour cela.
Alors, question éthique, professeur René Friedman, qui concerne les médecins comme les citoyens. Dans votre livre, Lettre à une mère, vous dites « Médecine pleine d'audace, on s'interroge sur les limites à fixer à cette audace ». Comment est-ce que vous avez accueilli l'annonce à la fin du mois de novembre de cette année 2018 de la naissance de ces jumelles? On peut dire bébé génétiquement modifié, ça s'est passé en Chine. L'annonce a été faite en Chine. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben je pense que là, justement, on a dépassé les lignes rouges. Le fond de la question, c'est de se poser la question, premièrement, est-ce que c'est nécessaire et pourquoi je le fais? Alors, en l'occurrence, là, pour éviter que des enfants soient contaminés par le sida, il y a plein d'autres façons d'éviter que ces enfants soient victimes du sida, pour ne pas prendre le risque de modifier le génome avec tout un tas d'inconnus. Parce que, si vous voulez, on a l'expérience, vous savez, des modifications génomiques. Par exemple, les enfants bulles à l'hôpital Necker, pas loin d'ici. On a arrêté, à un moment donné, cette première médecine de la mutation génétique, parce que il y a eu des leucémies qui se sont faites chez ces enfants qui pourtant étaient guéris de leurs problèmes immunologiques. Donc tout ça pour dire que c'est tellement délicat que cette course en avant pour son ego et pour se faire reconnaître n'est pas dans la démarche scientifique correcte. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas y travailler, qu'un jour il n'y aura pas des interventions qui se font comme ça se fait chez l'adulte, chez l'adolescent, peut-être au niveau de l'embryon, mais avec une sécurité et puis une réflexion sur le pourquoi. Parce qu'encore une fois, si on a des alternatives que l'on voit pointer, c'est peut-être pas licite de prendre des risques inconnus.
Des évolutions, des prises de position, avec parfois des réactions passionnées. Est-ce que vous avez fait face, professeur René Friedman, au cours de votre vie, de votre carrière, à une forme de vindicte, à l'insulte, à certains déchaînements de violence, de menaces de vos détracteurs ?
D'insulte, peu, je dois dire. De violence, oui. Si vous voulez, il y a quand même deux lignes de conception de la vie. Vous avez d'un côté quelqu'un qui juge que pas de contraception, pas d'avortement, pas de fécondation in vitro, tout ce qui sépare la sexualité de la reproduction, et d'autres, qui est bien sûr là où je me situe, qui est une reconnaissance de l'autonomie de la femme dans le mode de vie qui doit être le nôtre, c'est-à-dire une maternité désirée et choisie. Et donc, on voit bien que c'est deux lignes de conduite qui s'opposent. Personne n'impose l'une à l'autre, ne doit, à mon avis, imposer l'une à l'autre, mais doit laisser la liberté des gens choisir. Donc à chaque fois, nous sommes encore dans des batailles, je dirais, incontestables. Donc c'est un feu roulant, oui.
Alors justement, ces techniques de procréation médicalement assistée, on l'a bien compris au cours de ces émissions, hein, vous êtes l'incarnation en France de cette pendant de la science, ça a bouleversé les représentations de la filiation. Tout à l'heure, vous parlez du désir d'enfant. Il y a une autre expression qu'on entend, c'est le droit à l'enfant. Professeur René Friedman, pour vous, est-ce qu'il y a un droit à l'enfant ?
Non, bien sûr, il n'y a pas de droit à l'enfant, parce que ça serait déjà considérer l'enfant comme une chose. Et en plus, dans la stricte réalité des événements, en tant que médecin, nous sommes confrontés, vous savez, à peu près à 50% d'échecs. C'est-à-dire que quand on voit des couples qui viennent en fécondation in vitro, il y en a un sur deux, peut-être un peu plus, qui vont en exaucer leur désir, mais beaucoup pour des questions qui s'expliquent et d'autres qui ne s'expliquent pas, qui ne vont pas y arriver. Donc l'échec fait partie de notre métier, il fait partie de la vie, et en aucune façon, surtout si c'est au détriment, encore une fois, de l'utilisation d'un autre, qu'il soit un enfant ou qu'il soit une personne, on ne peut pas réaliser tous ses désirs. Et à ce point-là, d'ailleurs, j'étais très favorable au fait que la PMA ait été remboursée par la Sécurité sociale française pour 4 tentatives. Mais voyez-vous, aujourd'hui, j'estime que peut-être faudrait moduler un peu et que pour la 3e et 4e tentative, il faudrait qu'il y ait une participation des couples pour justement combattre cette idée, mais docteur, c'est remboursé par la Sécu, j'y ai droit. Alors même si vous me dites que c'est 0 ou 3%, faites-le, parce que mon couple dépend de ça, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'il faut un peu changer le paradigme, avoir peut-être une participation sauf cas particulier, tout peut se regarder. Et qu'en plus, cette participation pourrait créer un fonds d'investissement pour la recherche.
Alors, je vais vous citer une dernière date hein, pour conclure, professeur René Friedman. 16 juin 2013, à l'hôpital Foch de Suresnes, une naissance issue d'une fécondation des plus naturelles, hein, on va dire de l'amour tout simplement. Naissance certainement exceptionnelle pour vous. Amandine est devenue maman.
Effectivement, ça a été une grande joie de voir cette petite fille conçue donc de façon extraordinaire, avec son conjoint mener une puis deux grossesses d'ailleurs tout à fait naturelles. Donc c'était un juste retour des choses et qui en plus du lien personnel avec toute cette famille montrait en tous les cas l'intégration de ce développement scientifique dans la vie de tous les jours.
Ces grandes mains que vous agitez quand vous parlez, est-ce qu'elles accueillent encore des bébés aujourd'hui ?
Oui, je fais encore quelques accouchements et quelques interventions de PMA. Et c'est un grand plaisir parce que je crois, il y en a qui sont accros à d'autres choses. Moi, je suis accro
à
la naissance, à cette joie qui perle comme ça dans l'atmosphère, ces yeux qui se plissent, les sanglots qui arrivent dès la découverte de l'enfant pour cette femme et pour cet homme et la chance d'être là à ce moment unique.
Merveilleux, merci. Sur ces mots, on va se séparer. Merci infiniment, j'en perds mes mots moi-même, professeur René Friedman, d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir laissé brosser ce portrait dans Priorité Santé. Émission réalisée par Didier Bleu, préparée par Assetou Samaké et Ophélie Lassen. Et pour se dire au revoir, eh bien, des notes qui vous font vibrer, la salsa Oscar de León, vénézuélien, mais le rythme, lui, est cubain avec Mi Raza Negra. Très bonne journée à l'écoute de RFI et à demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.